Donc, bonsoir à tous. Merci d'être venus. Donc, nous avons donc l'immense plaisir d'accueillir Khaled El-Khamisi, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement, donc qui est auteur du célèbre Taxi, justement, qui est paru donc en collection Babel et qui a été traduit non seulement en français mais dans d'autres langues européennes, ainsi que de son plus récent ouvrage L'Arche de Noé, qui a été traduit également en français, qui est paru aussi chez Actes Sud. Alors, comme vous le savez, Taxi a été publié en 2007 par les éditions Dar el-Shurouq au Caire, et ça a été un best-seller au niveau du monde arabe, mais aussi au-delà. Mais d'abord, dans sa version arabe, c'était un best-seller, et c'est important de le noter, parce qu'il y a peu de best-sellers à l'échelle pan-arabe. Et ça a été publié, Taxi, avant la mise en place de ce qui est aujourd'hui, en fait, le plus important pourvoyeur de best-sellers dans le monde arabe, qui est ce qu'on peut appeler l'Arab Booker Prize, ce prix littéraire décerné chaque année durant la foire du livre d'Abu Dhabi, qui fait que le livre qui a l'auteur qui a le prix de ce prix arabe de littéraire va voir les ventes de ces ouvrages augmenter énormément, un petit peu comme notre prix Goncourt ici en France, ou ceux qui sont sélectionnés aussi dans la dernière liste de ce prix aussi voient leur vente, les ventes de leurs livres se multiplier. Mais ce qui est intéressant dans Taxi aussi, c'est que lorsque j'étais au Liban, lorsque ce livre a été publié, c'est qu'il a suscité aussi des clones littéraires plus ou moins réussis. Par exemple, il y a des ouvrages au Liban qui portent le terme de Taxi. Il y en a d'autres peut-être ailleurs qu'au Liban d'ailleurs, comme si en fait c'était une méthode qui avait été adoptée avec plus ou moins de bonheur. Il est vrai, et dans le cas du Liban, c'était surtout à travers les témoignages de chauffeurs de taxis collectifs, les services, comme on les appelle au Liban. Alors, dans L'Arche de Noé, ce livre qui est paru aux éditions Actes Sud, donc, Khaled El-Khamisi scrute à nouveau la société égyptienne, mais là, non pas dans les coulisses des taxis, mais on pourrait dire dans les coulisses de l'immigration, puisqu'il fait parler des immigrés égyptiens, ceux qui ont tout tenté pour émigrer, pour quitter le pays, pour aller vers d'autres horizons, pour quitter un pays aussi qui ne leur offrait pas les perspectives qu'ils attendaient de l'Égypte, et perspectives d'avenir qui restent encore en grande partie bloquées pour une grande partie de la population égyptienne en raison de la crise économique dont souffre le pays. Alors, quelques mots sur le parcours riche de Khaled El-Khamisi. Je ne vais pas parler de sa vie, parce que on n'est pas là ici pour le faire, mais simplement peut-être insister sur quelques éléments de sa biographie qui me paraissent particulièrement intéressants, dans le sens où c'est vrai que lorsqu'on parle d'un écrivain, on s'attache surtout à son œuvre littéraire. Alors que dans le parcours de Khaled El-Khamisi, il y a aussi d'autres activités extrêmement importantes, aussi importantes peut-être que son activité littéraire. Alors après des études de sciences politiques au Caire et à Paris, Khaled El-Khamisi a aussi fréquenté le lycée Bab el-Louk, d'où aussi sa francophonie. Khaled El-Khamisi a travaillé comme journaliste un temps. Il n'a pas longtemps persévéré dans cette voie. Il a travaillé comme journaliste. Notamment, j'ai noté qu'il avait travaillé comme journaliste à l'AFP, au journal Ahram. Et pour ce qui m'intéresse aussi, pour ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'il a ouvert une maison d'édition au Caire. Et il a fondé aussi une société, qu'il a ensuite fermée, mais il a aussi fondé avec d'autres une société culturelle, enfin une entreprise culturelle qui s'appelle Société Nil pour la production culturelle et médiatique. Et on voit qu'en fait, dans ses activités, Khaled El-Khamisi est aussi un acteur culturel de premier plan en Égypte, puisqu'il ne se contente pas non seulement d'écrire, mais aussi il intervient non seulement dans l'espace public, mais aussi il crée aussi des fondations, et notamment cette fondation culturelle extrêmement importante qui s'appelle DOM, J'ai appris donc c'est une sorte de palmier, hein, ça c'est le nom de local de, ou une sorte de palmier égyptien, hein, dôme, et qui est une fondation culturelle qui a été créée récemment par El Khamisi et qui vise à renforcer les fondations d'un état civil, hein, ce qu'on c'est la traduction en fait de l'arabe, hein, Daoula Madaniya, la fondation d'un état civil en encourageant la pensée critique. C'est ce qu'on trouve dans la première dans les premières lignes de cette de l'annonce de la création de cette fondation, en encourageant la pensée critique et en rendant accessible, en vulgarisant les productions intellectuelles susceptibles d'aider à la mise en œuvre d'un véritable dialogue national. Alors, évidemment, ce dialogue national, ce Hiwar Watani, c'est aujourd'hui, il est mis à mal par de nombreuses interférences locales ou extérieures dans le cadre égyptien. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le thème de cette lecture, et qui est aussi le thème du cycle de conférences de l'Institut d'études de l'islam et des sociétés musulmanes, c'est de savoir quelles sont les limites du dire, de l'écrit, de la pensée dans les sociétés, et notamment dans la société égyptienne, et aussi qu'est-ce qui a changé dans ces limites du dire et de la censure, en fait, depuis la révolution de 2011 en Égypte, et qu'est-ce qui a changé peut-être aussi dans la condition de l'écrivain. Alors peut-être qu'il est trop tôt parfois pour répondre à toutes ces questions, hein, qui sont très importantes, mais c'est ce que va certainement nous entretenir Khaled Khamisi, à qui donc je laisse la parole.
Ben, merci beaucoup. Je crois que vous travaillez comme espion quelquefois, parce que là vous avez connu toute ma vie, c'est super. Je ne sais pas si c'est super ou non, mais
Snowden.
C'est bien.
C'est sur le blog, hein, c'est pas.
Ouais. Ben, je vais commencer par dire que je n'imaginais pas, il y a 5 ans, 6 ans, qu'il y aura en Égypte un groupe de gens qui fondent un réseau d'athées. Je n'ai pas imaginé, il y a quelques années, que à l'université d'Ouassiout, qui est une université connue par sa forte groupe islamiste dans les années 70 et 80, 90, les groupes islamistes, le Gamaa et l'Islamia, étaient issus de l'université d'Ouassiout. Donc je n'imaginais pas il y a quelques années que des étudiants de l'université d'Ouassiout vont fonder un réseau clos des athées de l'université d'Ouassiout. Aussi, je n'aurais pas imaginé qu'une fille se met nue et met sa photo nue sur Internet. Je n'ai pas aussi imaginé qu'il y a un an, des homosexuels égyptiens font une campagne de sensibilisation qui vont faire une manifestation à Place Tahrir, qui n'a pas eu lieu, c'est vrai, mais la campagne était là. Et il y avait tout un dialogue discutant de ce phénomène et de cette manifestation. Je n'ai pas aussi imaginé qu'il y aura des académiciens, des professeurs à l'université qui utilisent des mots avec des parties intimes de la mère et du père et des sœurs, tout en analysant le schéma politique en Égypte. Ils utilisent des mots où je ne pourrais pas imaginer, pas seulement un académicien, mais quelqu'un qui écrit, qui met des lettres sur papier, qui pourrait utiliser ces mots. En les écoutant, on dit que c'est désastreux d'écouter ces gros mots. Là, ces gros mots sont intégrés dans un texte pour analyser une situation politique au point de vue philosophique. C'est Tout ça, c'était vraiment inimaginable il y a quelques années. Mais tout ça, c'est une partie d'un puzzle très complexe en Égypte aujourd'hui. Franck a parlé de la fondation DOM. C'est une fondation donc culturelle que j'ai fondée il y a un an. Et j'ai fondé le premier festival de contes en Égypte, dans l'histoire de l'Égypte. Et ce festival de contes était à Enna le 26, 27, 28 mars. Ce mars-là, donc il y a quelques jours. Et Enna, c'est une ville dans la Haute-Égypte, 60 kilomètres au nord de Louxor. C'est une ville dite très conservatrice, avec une population très conservatrice. Et un conteur du Caire qui commence à faire un conte avec avec sa relation personnelle avec une fille qui l'a trouvée lesbienne. Et dans le temps, quand il avait 18 ans, il ne savait pas quoi lesbienne. Et donc tout le conte, c'était sur cette histoire de lesbienneté à l'université. Et c'était devant un public que on croyait, au point de dans l'imaginaire kérote, que impossible de parler d'un pareil conte devant ce public. Et le public était là, il y avait 60 personnes à peu près, et il a ri, il a rigolé, et je croyais que ça ne va pas se passer bien à la fin, et finalement, rien de dangereux ne s'est passé. Mais tout à fait le contraire, c'était bien, très, très bien passé. Un autre groupe féministe, dans le même festival, a fait un show, une performance très féministe. Quand je dis très féministe, ça ne veut pas dire beaucoup de choses dans votre imaginaire, mais ça veut dire qu'il y avait de contes très intimes liés à la féminité. Et la même chose, le public a beaucoup ri, au point qu'un homme âgé de presque 60 ans est allé voir une des conteuses, et il lui a dit « Vous avez vraiment changé mon point de vue vis-à-vis de ma femme, et je peux vous dire que je vais changer mon comportement vis-à-vis de ma femme ». Ça ne veut pas dire du tout qu'il va changer réellement son comportement, mais ce que je veux dire par là, qu'il y a quelques années, peut-être, on n'imaginait pas une telle ouverture et une telle liberté d'expression vis-à-vis d'un public qu'on croyait très conservateur. Il y a plein de phénomènes sociales qui sont très intéressantes à analyser. Il y a aussi quelques mois, j'étais allé à Tanta, donc c'est une ville au milieu du delta, du Nil. C'est à peu près à 100 kilomètres au nord du Caire. Et il y avait un groupe de jeunes qui chantaient des chansons. Et les paroles de ces chansons-là, écrites par ces jeunes, étaient des paroles très féroce, si je peux dire, vraiment. C'est-à-dire que les mots étaient, c'est pas seulement des gros, oui, ils utilisaient des gros mots, mais c'était des mots totalement choquants d'un homme à mon âge. Et le public, la même chose, était totalement ouvert à ce que ce groupe de musiciens et de chanteurs chantait. Au même moment, on a vécu il y a quelques années toute une révolution culturelle. Il y a beaucoup de gens qui étaient intéressés dans le monde à une révolution où des gens sont descendus dans les rues pour faire des manifestations, pour faire tomber Moubarak. Mais pour moi, ce n'était pas du tout ça qui était intéressant. Ce qui était au présent très intéressant à analyser, c'est cette révolution culturelle. Parce que vous avez mentionné, Franck, que le livre Taxi était un best-seller. Mais vous n'avez pas du tout essayé d'analyser pourquoi un best-seller. Pourquoi Naguib Mahfouz, notre grand écrivain égyptien, vendait 3000 exemplaires, tout maximum. Et pourquoi en 2007, il y a eu plusieurs livres qui ont vendu des centaines de millions, de milliers d'exemplaires. Comment ça se fait? Comment on peut analyser ça? On peut analyser ça parce que il y a eu une ouverture culturelle. Il y a eu beaucoup de gens qui voulaient acheter des livres pour essayer de trouver une terre, pour essayer de trouver un demain, pour essayer de trouver quelque chose de nouveau, des nouvelles portes. Et dans ce même moment, avec ces nouveaux lecteurs, on a eu des nouvelles, même des dizaines de nouvelles groupes de groupes qui lisent de la poésie, des groupes de théâtre, des groupes de contes. Et on a eu plein de lieux d'exhibition, pas seulement au Caire, mais presque dans toutes les grandes villes de l'Égypte. Et on parle beaucoup de quelques lieux d'exhibition et de performance au Caire, mais à Tanta, j'ai vu la même chose, à Damanhour, j'ai vu la même chose, à Enna, j'ai vu la même chose. Et durant le festival, il y a quelques jours, donc exactement le 28 mars, j'étais allé dans une ville au sud, 30 kilomètres au sud de Qena. C'est une petite ville. Et il y avait des jeunes gens qui ont été regroupés il y a un an pour faire un journal, pour faire un magazine, pour faire un club de lecteurs. Et ils travaillent 2 à 3 fois par semaine, volontairement, pas volontairement, mais bénévolement, pour produire ce journal et ce magazine. C'est un travail qui l'ont fait avec avec des piastres de leur poche pour essayer de produire une production culturelle intéressante dans leur ville. La même chose en allant dans une autre ville qui s'appelle Garagos, dans le même, à 5 kilomètres de cette ville. La même chose, le même travail. Tout ça est nouveau. Ces regroupements de jeunes, c'est nouveau. Ça date de un an et demi, 2 ans. C'est tout le temps des groupes et des mouvements très très jeunes. Si on parle du Caire, on trouve des dizaines de mouvements qui ont essayé de constituer ou des réseaux, ou des ONG, ou des lieux sans papier, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui refusent catégoriquement d'être intégrés à l'État ou d'avoir des papiers légaux avec l'État. Donc ils sont là et ils disent que on s'en fout de cet État, on va travailler sans papier. Et c'est un positionnement aussi neuf. On croyait pas que ça va se passer dans un État si bureaucratique comme l'Égypte. Il y a quelques années, avec cette révolution culturelle, dont j'essaie de donner quelques traits, il y avait un ami qui était avec moi à la classe du lycée de Bobello, qui s'appelle Ibrahim Batout, un réalisateur de cinéma, qui a refusé aussi d'être intégré au syndicat de cinéastes et qui a fait un film sans papier. Il a refusé de donner son scénario à la censure. Il a refusé de faire travailler des jeunes gens avec lui liés au syndicat. Il a fait un film. Il a fait aujourd'hui 4 films. Il a commencé par Ifeki, qui était un film très très intéressant. Après Ain Shams, après Hawi. Hawi a pris le grand prix du festival de Tribeca, ce festival de Robert De Niro à Qatar, Doha. Il a eu le grand prix et c'était tout le temps un problématique que c'était un réalisateur qui refuse d'être lié à un syndicat ou d'être lié à l'État. Je crois que Ibrahim Batout était le premier dans le domaine du cinéma qui commence réellement de dire clairement qu'il refuse de donner son scénario à la censure. Mais après, ça s'est passé plusieurs fois. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de groupes de gens qui fondent des fondations, mais des institutions, mais sans assistance, sans papier. Et là, dans le domaine des médias, on trouve aussi plusieurs initiatives très intéressantes à faire des groupes de médiatiques aussi sans papier. Ils descendent dans les rues, ils filment, ils montent leur footage et ils mettent ça sur Internet. Et il y a donc Shaifen comme groupe, il y a, c'est pas grave, je ne trouve pas le nom. Et dans ces projets, on trouve aussi des projets participatifs, c'est-à-dire que des projets comme Projet Choral, par exemple, c'est un groupe de gens qui font tout ensemble. Tous écrivent, tous chantent, tous font de la musique, tous. En même moment, ils ne sont pas un nombre spécifique. C'est-à-dire qu'ils descendent dans une ville, ils demandent qui veulent entrer, et des jeunes entrent et écrivent, chantent, font de la musique. Et donc, c'est un groupe de chorale participative et en même moment très subtil et très qui mouvant, qui change tout le temps. Ce genre de groupe est devenu très répandu. Il y a aussi, pardon? Non, à part, je vais parler de Fanny Miden dans quelques minutes. Non, ça s'appelle Mashrou' Koral. Mashrou' Koral. Par exemple, il y en a plein. Je dis des exemples pour que vous avez un exemple. Mais il y a vraiment beaucoup d'exemples. Il y a naturellement Eskenderella, qui c'est un groupe de musiciens et de poètes qui commence à chanter surtout dans les rues, dans des places. Depuis 2011, ils chantent surtout dans les rues et ils mettent ce qu'ils chantent sur Internet. Tout est gratuit. Ils chantent gratuitement, tout est gratuit. Et aujourd'hui, matin, c'était pour Eskenderella, c'est la première fois, ils ont fait un CD de CD qui est paru aujourd'hui pour la première fois. Ils sont très très contents, mais leur projet était un projet de chant surtout dans la rue. Et récemment, Ils ont chanté donc dans Elfen et Meden, dont vous avez mentionné le nom. Donc, naturellement, ce qui est aussi très intéressant, c'est les nouveaux librairies. Je suis né, vécu au centre-ville du Caire. Au centre-ville du Caire, il y a à peu près une trentaine de librairies qui ont été ouvertes dans les derniers 3 ans. Je n'imaginais pas personnellement tant de librairies qui peuvent s'ouvrir au centre-ville durant ma vie. C'était pour moi quelque chose d'inimaginable. C'est la même chose aussi dans d'autres villes. Alexandrie, il y a beaucoup de nouvelles librairies qui ont été ouvertes récemment, ces derniers 2-3 ans aussi. Il y a beaucoup de maisons d'édition qui ont été faites ces derniers 3 ans, surtout des maisons d'édition de jeunes. Il y a beaucoup de maisons d'édition de jeunes qui aussi édite online sur Internet. Et récemment, il y a une maison d'édition qui s'appelle Hendewi. C'est une fondation à but non lucratif qui fait donc éditer des livres gratuitement. Et ils ont presque chaque jour des nouveaux livres qui sont donc édités gratuitement en EPUB. Et pour la langue arabe, le EPUB n'existait pas. On parlait donc depuis maintenant plus que 10 ans pourquoi il n'y a pas un EPUB en arabe. Et finalement, il y a quelques mois, on a eu donc pour la première fois des livres EPUB en arabe. Et donc Hendewi, que si parmi vous, quelqu'un qui parle l'arabe, il entre hendewi.org, c'est vraiment une maison d'édition très très intéressante à voir et à analyser son parcours. Surtout que les livres qui les éditent sont des livres qui travaillent beaucoup sur l'esprit critique et pour ouvrir des nouvelles fenêtres de réflexion. Et donc, c'est une maison d'édition très intéressante qui entre, dans mon point de vue, dans cette révolution culturelle. Au même moment, il y a des jeunes qui ont commencé à faire des BD. Et les BD, il n'est pas du tout connu réellement en Égypte. On était très fort dans le domaine de caricature depuis le début du XXe siècle. On a une histoire de la caricature, mais on n'a pas du tout une histoire de BD. Et il y a quelques jeunes qui ont commencé aussi à faire des livres en BD, des livres aussi très, très forts, très intéressants, qui essayent d'analyser ce qui se passe dans l'espace public. En parlant de l'espace public, je peux dire aussi que ce qui s'est passé, l'espace public a été totalement colonisé par l'État depuis ma jeunesse. Quand j'étais à l'école, je voyais, dans les années 70, je voyais donc sous le régime Sadat, les places, les jardins ont été fermés un après l'autre. Et puis, il y avait une loi qui interdisait plus de 5 personnes ensemble dans le même lieu. Donc, si on est ensemble pour voir le cinéma à 8 personnes, on doit marcher 5 et 3. Donc, c'était une loi totalement comique pour nous. On a rigolé beaucoup, mais sans la rigolade, c'était une politique très claire depuis les années 70 de l'État pour coloniser totalement l'espace public. Cet espace public a été vraiment pris de cet état sécuritaire jusqu'à il y a quelques années. Et il y a quelques années, cet espace public a été totalement, je ne veux pas dire le mot colonisé, mais pourquoi pas, colonisé par le peuple. Donc, revenons par El Fayn El Medeyn, par exemple, comme un groupement d'artistes qui veulent faire de l'art dans des places en Égypte. Et en vendredi soir, dans 10 gouvernorats, 12 gouvernorats, dans 12 places différentes, dans 12 villes différentes, il y a des chanteurs, des musiciens qui prenaient la place pour faire donc de l'art dans ces places-là. À part El Fayn El Medeyn, El Fayn El Medeyn, donc c'est l'art dans des places. À part El Fayn El Medeyn, il y a beaucoup d'autres projets qui visaient la même chose, qui visaient de prendre l'espace public et et exercer un art dans l'espace public. Naturellement, il y a le graffiti. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé du graffiti. Il y a beaucoup de livres qui ont été édités sur le graffiti. Mais je ne peux pas parler de l'espace public sans parler aussi des artistes égyptiens qui sont descendus pour dessiner les murailles des rues. C'était aussi totalement lié à cette révolution culturelle parce que ça datait seulement depuis 3, 4, 5 ans maximum. Tout ça est nouveau, tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant est nouveau et tout ça c'est très intéressant à analyser. Pourquoi il y a plus de maisons d'édition? Pourquoi plus de livres? Pourquoi plus de lecteurs? Pourquoi plus de librairies? Pourquoi des livres qui sont vendus par des millions, des dizaines de milliers d'exemplaires? On a plein de pourquoi. En 2011, et cette révolution culturelle a été commencée depuis au moins 5-6 ans, il y a des forces conservatrices qui se sont senties en danger. Et réellement, ils étaient en danger. Et pour simplifier les choses, on peut dire que ces forces conservatrices, on peut les diviser par deux ou trois groupes. Il y a l'État sécuritaire. Et l'État sécuritaire n'est pas seulement l'armée. Il y a beaucoup de gens qui parlent de l'armée, point final. Pour moi, ce n'est pas l'armée, c'est l'armée. Naturellement, quand je dis l'armée, c'est l'armée et les intérêts économiques et financiers de l'armée, et c'est la force économique de l'armée, donc l'armée en général. Plus il y a le ministère de l'Intérieur, qui est quand même 1,2 million d'êtres humains travaillant dans ce réseau de sécurité du ministère de l'Intérieur. Il y a tout le réseau des gens qui travaillent dans des villes et des villages qui sont totalement liés au ministère de l'Intérieur et à l'armée. C'est un réseau d'intérêts financiers et qui est totalement lié à cet état sécuritaire parce qu'il y a l'Omda, donc le maire d'un village. Ce maire du village est lié à quelqu'un du ministère de l'Intérieur, lié à quelqu'un de l'armée. Tout ça forme véritablement un seul réseau où on l'appelle état sécuritaire, on l'appelle quelquefois l'état profonde. On utilise plein de mots pour désigner cet état. Donc, je vais moi dire état sécuritaire. À part l'état sécuritaire, il y a les groupes islamistes. Et pour simplifier, je vais parler, quand je dis donc les groupes islamistes, je veux dire surtout les frères musulmans, parce que quand on parle de ce monde, on parle des trois groupes. On parle de l'Azhar comme institution étatique, on parle des frères musulmans, et on parle des salafis, et on parle quelquefois des soufis. Naturellement, enlever les soufis du schéma parce qu'ils sont totalement différents. Donc, on peut parler des salafis, des frères musulmans et de l'institution étatique musulmane ou islamique qui est l'Azhar. Ces trois groupes sont trois groupes qui sont très forts. Excusez-moi, je vais ajouter avec l'Azhar, qui est, quand je dis institution islamique, il y a l'Azhar, il y a aussi le ministère du Waqf. Parce que le ministère du Waqf est un ministère très important qui a tous les mosquées de l'Égypte. Donc tous les imams de l'Égypte sont liés au ministère du Waqf. Donc le ministère du Waqf est un ministère clé pour voir un peu le schéma donc de l'institution islamique étatique. Donc on a l'Azhar et le Waqf, ça c'est l'institution. On a les frères musulmans, on a les salafis. Ces trois groupes sont des trois groupes totalement naturellement conservateurs qui travaillent férocement pour essayer de freiner tout changement et toute ouverture et toute liberté et toute possibilité de liberté d'expression. Donc tout ce que j'ai dit dans la première partie, c'est moi dans la première partie, j'ai essayé de parler des ouvertures. Donc là, je vais essayer de parler des gens qui essayent de fermer toutes ces ouvertures. Donc on a ces groupes islamistes, donc on a l'État sécuritaire. Et l'État sécuritaire, elle est totalement... Quand j'ai parlé donc des trois groupes, Azhar, Waqf, frères musulmans et salafis, de l'autre côté, j'ai parlé de l'État sécuritaire, j'ai parlé de l'armée, ministère de l'Intérieur, et les maires et les réseaux des villes, je dois ajouter aussi la force monétaire. Parce que la force monétaire, les milliardaires, les grandes compagnies, la bourse, tout ça, est totalement lié à cet état sécuritaire durant ces derniers 30-40 ans, par des intérêts communs. L'état sécuritaire avait besoin de la force monétaire, donc donnez-les des intérêts, donnez-les de l'argent, donnez-les de la terre, mais qu'on soit tous les deux ensemble pour freiner tout changement, pour essayer de continuer à la situation actuelle. Et donc c'est donc état sécuritaire et force monétaire d'un part, les groupes islamistes de l'autre. Tous les deux, depuis 2011, ils ont commencé à faire un vrai travail de freiner tout potentiel d'ouverture et de liberté d'expression. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je vais commencer d'abord par l'État sécuritaire, parce que elle est aujourd'hui la gagnante jusqu'à maintenant. Donc je vais commencer par elle, par cet État sécuritaire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce que je peux dire, c'est qu'ils ont fait un bon travail, pour être honnête avec vous. Ils ont commencé depuis 2011, une campagne d'étiquetage. Donc, donner des étiquettes à chaque groupe et à chaque personne. Ils ont commencé un projet à glorifier la sécurité de l'État. Ils ont commencé un projet à glorifier et mettre en valeur les valeurs de la société, à défendre donc les valeurs de la société, à défendre l'identité nationale. Ils ont commencé à faire un vrai projet médiatique des complots. Il y a des complots extérieurs, il y a des complots intérieurs, et il y a naturellement des ennemis. Et après, donc, qui ont mis des étiquettes au-dessus de plein de têtes, ils ont commencé à dire, ah voilà, cette étiquette-là, ils sont des ennemis, ils sont entrés dans un complot avec les États-Unis, ou avec les Turcs, ou avec les Qataris, ou n'importe. Et petit à petit, donc, ils ont commencé à prendre un ennemi après l'autre. Ils ont commencé par dire que les étrangers sont des espions. Donc, c'est historique, ça a été déjà fait dans les années 50-60. Donc, ils ont re-essayé de dire la même chose. Donc, vous êtes français, vous êtes dans les rues du centre-ville du Caire, certainement vous êtes un espion qui vous venez pour espionner, pour dire à Hollande qu'est-ce qu'il doit faire pour nous étrangler. Et vous avez l'air d'un espion, vous êtes blanc, c'est clair. Après, ça vient la société civile. La société civile est un ennemi. Et ils prennent de l'argent de l'extérieur, ils prennent de l'argent des États-Unis, ils prennent de l'argent de l'Europe. Ils sont des vrais ennemis de l'État. Ils veulent suffoquer nos potentiels. Et la police donc a commencé à attaquer les ONG. Et ils ont attaqué plusieurs ONG. Ils ont pris des ordinateurs des ONG. Ils ont pris des documents. Ils ont pris ils ont même pris des gens pour les mettre en prison. Ils ont passé une loi contre les manifestations, Qanun al-Tazahur. Ils ont, depuis maintenant 3 ans, ils passent et repassent la loi d'urgence. Donc ils ont repris la loi d'urgence, ils l'ont remis, repris, il va et vient, va et vient. La loi d'urgence est devenue très élastique, il bouge chaque 2 secondes. Il parle chaque semaine, on doit faire entrer la police au sein des universités. Donc c'est une des choses aussi qui se répète et répète et répète. Naturellement, le mot terrorisme est un mot très intéressant, que tout le monde l'utilise, tous les politiciens l'utilisent. Naturellement, Bush était le meilleur à l'utiliser, mais en Égypte, ces derniers 3 ans, aussi l'État sécuritaire a beaucoup utilisé le mot terrorisme et on doit donc essayer de contrer le terrorisme, on doit contrer la terreur. Ces terroristes bougent naturellement. Au début, c'était les mouvements révolutionnaires socialistes et puis ils sont devenus après les frères musulmans, ça bouge. Mais l'idée est la même, qu'il y a des terroristes, ils sont des ennemis, ils sont contre la sécurité de l'État, on doit les mettre en prison. Et ce projet était un projet très bien médiatisé. Naturellement, l'État sécuritaire détient les médias, et ils détiennent la plupart des télévisions, la radio. Et donc, si on analyse les messages passés par les médias, radio, télévision, presse, ces derniers 3 ans, ce que j'ai dit, donc les étiquettes d'abord, et puis les ennemis, et puis l'identité, défendre l'identité, et puis défendre les valeurs de la société égyptienne, et puis les valeurs égyptiennes. Tout ça, c'était un travail minutieusement fait, très bien fait, qui a réellement eu des échos. Ces échos ont été aussi au même moment avec toute une politique basé sur deux piliers très connus aussi, très historiques, mais qui marchent tout le temps. Le premier pilier, c'est il n'y a pas de sécurité, c'est le retrait de la sécurité dans la rue, donc pas de sécurité. Et donc, ce qui se passe à Aspen ces derniers jours, si vous connaissez ce qui se passe, c'est surtout parce que il y avait tout un retrait de la sécurité en Égypte, et ce retrait sécuritaire a dû faire qu'il y a beaucoup de familles qui ont acheté de l'armement, surtout dans la Haute-Égypte. Et l'autre pilier, naturellement, c'est la crise économique et financière. Et donc, on ne pourrait pas progresser économiquement et financièrement sans que ses ennemis ne sont pas aux prisons, sans d'arrêter tout changement, sans arrêter tout potentiel d'ouverture de liberté. On doit arrêter ça pour faire marcher la machine financière et économique. Et pour connaître un peu, 60% de la population égyptienne vivent sans un salaire mensuel. Ils vivent avec une rémunération de chaque jour. Donc s'ils travaillent ce jour-là, ils mangent. S'ils ne travaillent pas, ils ne mangent pas. Donc c'est un travail de force de main. Et ce travail de force de main est totalement... c'est très fragile, c'est une fragilité énorme. Et cette fragilité fait que la crise économique et financière tape vraiment sur les nerfs de 60% de la population égyptienne. Donc, au même moment, les médias répètent, vous ne mangez pas, vous ne travaillez pas, parce que il y a des ennemis d'un part, et de l'autre part, il y a des gens qui veulent changer nos valeurs et notre identité. Et là, ces 60% sont très susceptibles à écouter avec des oreilles ouvertes les messages passés par les médias. Et donc, tout ça a été très bien fait. Ce retrait de sécurité est encore là. Jusqu'à aujourd'hui, on a un retrait de sécurité. Après que Morsi est parti, la sécurité est plus présente, certainement, mais elle est encore pas totalement présente. Je crois qu'ils attendent que Sisi prend le pouvoir pour faire donc descendre qu'il y aura une vraie sécurité dans les rues de l'Égypte. Je ne parle pas des grandes villes, je parle surtout dans des villages. Surtout aussi dans la Haute-Égypte. Ça, c'est l'État sécuritaire et ce qu'elle a fait avec rapidité. L'autre groupe, c'est les groupes islamistes, l'institution étatique, donc l'Azhar et l'Waqf, les frères musulmans et les salafis. Donc, ces gens répètent la même chose, qu'il y a des valeurs, il y a une identité, on doit protéger cette identité. Donc, le mot identité, c'est le mot clé aussi que tout le monde répète. Et il parle d'une identité un peu différente, mais il répète le même mot. On a des valeurs, et ces gens qui veulent changer, ils veulent détruire nos valeurs, ils veulent détruire notre Égypte, ils veulent détruire ce que on a de vrai. Et ce qu'on a de vrai, c'est notre religion. C'est notre réalité, c'est notre histoire, c'est notre identité. Et chacun a des intérêts financiers et chacun a des moyens de force. Commençons par les frères musulmans. Les frères musulmans, c'est un groupe avec un vrai pouvoir économique et financier. Et eux, depuis maintenant plus de 10 ans, ils ont constitué ce qu'on appelle les bataillons qui étaient les bataillants djihadistes sur Internet. Qui étaient le djihad à l'Internet. Donc, et ces bataillants djihadistes, c'est des groupes payés par les frères musulmans qui sont sur Internet, qui leur vrai travail, c'est d'attaquer n'importe quel écrivain, journaliste, de créer des mensonges sur ces écrivains-là et de d'écrire des commentaires sur des articles qu'ils croient qui attaquent les valeurs islamiques, les valeurs égyptiennes de leur point de vue. Et ils font jusqu'à aujourd'hui un vrai travail de djihad et un travail d'essayer de freiner n'importe quelle ouverture de liberté d'expression. Au même moment, ces bataillants djihadistes sur Internet, ils écrivent ils font des blogs et ils font des sites web et ils écrivent des textes et ils écrivent des articles et ils écrivent beaucoup. Donc, pour faire voir qu'il y a tout un système de création d'articles islamistes. Et ces bataillons djihadistes font peur à beaucoup d'écrivains. Parce qu'un écrivain qui dit n'importe quelle chose, soi-disant anti-frères musulmans, il reçoit 200 commentaires, quelquefois. Moi, j'ai vu plus que 1000 commentaires. Et plus que 1000 commentaires avec des vrais « on va te tuer, on va t'arnaquer ». Il y a des vrais des commentaires très féroces. Et avec des mensonges. Que oui, on te connaît parce que ton père faisait tel, et ta mère faisait tel, et ton oncle a vu tel. Plein de mensonges. Et c'est tout un travail de mensonges contre n'importe quelle liberté d'expression. À part les bataillons djihadistes, il y a les bataillons judiciaires, ce qui est aussi très intéressant. Les frères musulmans ont commencé à fonder aussi plusieurs bataillons de djihadistes judiciaires, fondés par des avocats, pour faire des procès contre des écrivains qui écrivent selon eux des textes qui contredisent la vraie religion islamique de leur point de vue. Naturellement, il y a le cas de Dr Nasr Hamed Abou Zeid, donc c'est le cas le plus connu, mais véritablement, il y a plein de cas, pareil, des centaines de cas, contre des artistes, des acteurs, des cinéastes, des écrivains, des journalistes, etc. Et récemment, il y a un procès à Amenia contre un journaliste qui a pris un verdict, je ne me rappelle pas de combien, je crois, d'un an de prison. Je me rappelle pas très bien exactement combien. Mais c'était au premier degré. Donc, et c'était à Amenia, et c'était il y a quelques semaines. Donc, ces bataillons djihadistes judiciaires continuent à travailler férocement contre n'importe quelle ouverture. Il y a aussi le système de... Donc, j'ai parlé de l'état sécuritaire et faire passer des messages à travers les médias, donc la télévision et la radio et la presse. Avec les islamistes, ils passent des messages surtout par les mosquées. Donc, on a des milliers de mosquées, et ces milliers de mosquées, il y a des milliers d'imams, et ces imams, donc, passent des messages totalement liés à ces groupes qui essaient de contrer n'importe quelle ouverture. Et ça, c'est un travail aussi très important à analyser. Et ce que je veux dire et je peux dire, c'est qu'il n'y a pas, de mon point de vue, une vraie contradiction entre les messages passés par les frères musulmans et les islamistes et l'État sécuritaire. Naturellement, dans toute la presse, il y a toute une guerre entre l'État sécuritaire et les frères musulmans. Oui, mais c'est, pour moi, c'est très superflu. Parce que la réalité des choses, de mon point de vue, elle est autre que tout ce qui se dit. C'est que les vrais messages sont les mêmes. Ce sont des messages très conservateurs qui parlent d'identité, qui parlent de qu'on doit préserver des valeurs imaginaires et qu'on doit essayer de suffoquer tout changement et toute possibilité de changement. Et au même moment, tous les deux sont pour un néolibéralisme féroce et pour des politiques économiques et financières totalement liées à la Banque mondiale et au FMI. Donc, ils sont réellement très proches. Ils sont, comme beaucoup de gens disent, là, beaucoup de gens disent qu'ils sont une pièce avec deux faces. Mais ils sont réellement la même pièce, exactement, avec deux faces. C'est tout ce travail, donc, pour contrer un changement, est un travail qui a eu des récoltes. Ils ont aujourd'hui récolté réellement tout un travail qui a été fait et qu'aujourd'hui, les 60% au moins d'Égyptiens qui vivent au-dessous du seuil de la pauvreté, en utilisant des termes que je n'admets pas vraiment, mais ce n'est pas grave, ils sont là pour dire oui, on a besoin d'un État sécuritaire, on a besoin de la sécurité, on a besoin que la machine financière marche, encore une fois, on suffoque, on meurt, on ne pourrait pas continuer comme ça, on a besoin d'un homme fort, et là, le système de cet État sécuritaire continue réellement à gérer les choses dans des mains de fer. Dans tout ça, l'écriture et les écrivains, les intellectuels, comment ils vivent tout ça? D'abord, ce que je veux dire, que les gens qui n'étaient pas considérés comme écrivains intellectuels, c'est eux qui en réellement font un vrai défi contre les tabous. Contre les tabous de religion, contre les tabous politiques. C'est eux qui ont commencé à écrire dans les murailles des rues des messages, de l'art, qui ont fait des blogs. On a passé en 2003, on avait 3000 blogueurs. De 2003 en 2008-2009, on est arrivé à peu près à 300 000 blogueurs. Aujourd'hui, les chiffres disent qu'ils ont dépassé le 1,5 million de blogueurs. Ces blogueurs ont complètement ont fait un vrai défi contre les tabous. Naturellement, les tabous, les trois tabous connus, religion, sexe et politique, sont des tabous qui ont été totalement bafoués par ces gens. Et les écrivains étaient très très loin en arrière si on les compare avec ces blogueurs, avec ces gens qui écrivent dans l'espace d'Internet. Et là, les écrivains ont commencé à dire qu'est-ce qu'ils peuvent écrire après ce que les blogueurs écrivent. comment ils peuvent atteindre ce niveau de liberté d'expression? Comment ils peuvent atteindre aussi une imagination plus ouverte que ce qui se passe réellement dans la vraie vie? Ce qui se passe dépasse de très très loin l'imagination des hommes de culture. Et les hommes de culture, les écrivains, ils sont totalement mohassarin, assiégés. Ils sont totalement assiégés par l'institution de l'État. Le projet d'apprivoiser les hommes de culture et les écrivains en Égypte a commencé il y a à peu près une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, avec le ministère de la Culture. Donc, Farouk Hosni a bien dit ça clairement. Donc, Mashroua Tedgin al-Musaqafin, donc l'apprivoisement des intellectuels, Tedgin. Des intellectuels comme des poulets. Donc mettre les poulets dans le afas,
la cage,
ouais. La cage, mettre les poulets dans la cage. Donc c'était le vrai projet. Donc les intellectuels sont des poulets et on doit les mettre dans les cages. Donc ce projet est un projet qui a été bien fait aussi. Ces intellectuels, ces écrivains ont besoin de l'argent. Ils doivent vivre. Pour les faire vivre, on doit couper tout moyen d'argent à part l'État. Donc, on va donner des prix à eux. On va leur donner des sabbatiques payantes. On va les donner des rémunérations. Donc il y a tout un système qui a été fait depuis une quinzaine d'années pour mettre vraiment tous les poulets dans la cage. C'était un travail aussi bien fait. Et il y avait donc, on pourrait essayer d'écrire quelque chose qui sort un peu de l'institution, mais ça ne sort pas beaucoup. Parce que si ça sort beaucoup, les tuyaux de l'eau vont être coupés. Il n'y aura pas de prix. Il n'y aura pas des sabbatiques.
Des bourses.
Il n'y aura pas de bourse, etc. Et par là, la liberté d'expression n'était pas du tout liée à la censure. Ni à la machine des groupes djihadistes judiciaires, mais c'est surtout elle était liée au projet de l'apprivoisement des intellectuels et des écrivains par l'État, par le système sécuritaire, et c'est un travail qui marche et qui a marché réellement. Et naturellement, ceux qui sortent de ceux qui refusent d'être un poulet, ils sont naturellement attaqués. Et la plus simple de leur dire que c'est des gens liés au monde extérieur, et peut-être ils sont des gens liés à des ONG ou des espions, ou des gens qui prennent de l'argent de la France, de l'Angleterre, des Amériques, des États-Unis. Il y a tout le temps des possibilités de ou faire marcher le système djihadiste judiciaire, ou même un avocat lié même au système sécuritaire, qui fait un procès contre cet écrivain qui dépasse les limites. Mais les limites étaient liées au tuyau de l'eau. Et là, ces dernières quelques années, le projet de l'apprivoisement des intellectuels de l'État n'existait plus. Après la chute de Farouk Hosni, après la chute de Moubarak et de Farouk Hosni et de ce projet, on peut pas parler que ce projet continue. Le projet qui continue jusqu'à maintenant, c'est les djihadistes islamiques sur Internet et les bataillons donc judiciaires. C'est des groupes qui continuent de travailler jusqu'à aujourd'hui. Comme je viens de dire, il y a un écrivain qui a eu un verdict il y a quelques semaines de El Menia. Et donc, les écrivains, durant ces 2-3 ans, étaient d'abord étiquetés, donc ils avaient des étiquettes chacun, par le système d'État sécuritaire. Celui-là est islamiste, celui-là a voté Morsi, celui-là est lié à l'Europe, celui-là est bon, celui-là est mauvais, celui-là est un ennemi. Donc les étiquettes sont là, vis-à-vis des écrivains. Et ça continue aussi que les institutions existantes ont peur de dépasser des limites. Par exemple, il y a le livre très très intéressant donc de Adel Rifat et de Bagat Nedi, Penser le Coran, que je trouve personnellement, je le trouve un livre très très important, et je voyais que c'est un livre où on doit l'éditer en Égypte. Et j'ai essayé personnellement de contacter des maisons d'édition en Égypte, et personne n'a accepté. Et donc, après de longues discussions, je suis quelqu'un qui travaille dans le domaine culturel toute ma vie en Égypte. Je connais tout le monde, ou presque, dans le domaine culturel. Je connais les maisons d'édition, je connais le système. Et donc, c'était totalement logique de voir. Je suis allé naturellement vers des maisons d'édition que je les connais, que je connais leur point de vue, que je connais qu'ils veulent éditer ce livre. Et ils n'ont pas pu. Pourquoi ils n'ont pas pu? Pour une simple raison, c'est que s'ils éditent ce livre, il y a une possibilité qu'ils ne peuvent pas vendre leur livre en Arabie Saoudite, aux Émirats Unis, à Koweït. Tout ça sont des tuyaux d'argent très très importants. Et donc, pour la maison d'édition comme institution, c'est très dangereux pour eux de faire passer des livres qui dépassent des limites dans leur imaginaire. Parce que les tuyaux de l'eau vont être coupés. La même chose pour les écrivains. Il y a des écrivains qui ont peur de dépasser quelques limites parce qu'ils ont peur de ne pas avoir un prix. Ils ont besoin de l'argent d'un prix. Ils ont besoin de ce boukr arabe. Mais ce boukr est arabe, ça n'a rien à voir d'un prix. C'est de l'argent payé pour des gens où on les accepte. L'institution les accepte. Là, cette institution est très très importante à l'analyser, à l'étudier. Moi, personnellement, j'avais écrit un article dans un journal. Et après cet article, ils m'ont dit, s'il vous plaît, n'écrivez pas chez nous après. Parce que c'était un article qui dépassait des limites pour eux. Parce que c'était pas dangereux de leur point de vue, mais c'était dangereux pour peut-être leur milliardaire qui paye la publicité. Naturellement, tout ce que je dis n'est pas égyptien, il est mondial. Il est partout dans tous les pays. Mais c'est un système qui fait des vraies limites dans la liberté d'expression des écrivains. Qui s'en foutent totalement de tout ça? Qui s'en foutent des poulets et des cages et des tuyaux de l'eau? Qui s'en foutent des prix et de boukr? Qui même pissent sur tout ça? C'est les gens qui écrivent bénévolement, qui écrivent dans des réseaux ouverts, qui écrivent sur Internet, qui écrivent, et ils s'en foutent totalement de n'importe quel tuyau. Mais ces gens, aujourd'hui, ils sont importants. Ils n'existaient pas il y a quelques années, et aujourd'hui, ils existent. Ils sont là, et ils écrivent, ils ont une parole, et il y a des gens qui les lisent, et il y a des groupes, comme je vais donc aller au début de ce que j'ai dit, ils constituent des groupes, et ces groupes ont petit à petit des rôles, et ils sont efficaces, et l'État sécuritaire et les groupes islamiques et le ministère de Waqf et l'Azhar essayent de leur mieux d'arrêter toutes ces fenêtres qui essayent d'ouvrir des nouvelles idées. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les maisons d'édition continuent à ouvrir. Il y a des nouvelles maisons d'édition continuent à ouvrir. Et de nouvelles librairies continuent à ouvrir. Et des groupes continuent à être constitués. Aujourd'hui, il y a un verdict de... J'ai dit, il y a un an, il y a des homosexuels qui voulaient faire une manifestation. Aujourd'hui, il y a un verdict de 8 ans pour homosexualité pour 2 personnes. Donc il y a l'institution, il y a les lois, il y a l'État qui essaie de contrer toute ouverture. Et le match est encore là. Il y a beaucoup de gens qui disent que malheureusement le match est fini, 2-0, et l'État sécuritaire a gagné. Mais moi, je vis jour à jour dans des villes et des villages en Égypte, et ce que je peux vous dire clairement, que le match n'est pas fini, et que ce qui se passe dans des petits groupes est très intéressant. Vous ne le voyez pas, et malheureusement, beaucoup d'Égyptiens ne le voient pas, parce que les médias sont totalement monopolisés par l'État sécuritaire et par par l'institution. Et tout ça ne veut rien dire. Tout ça veut dire une seule chose, que le développement de liberté d'expression va continuer de fleurir petit à petit dans les années qui viennent. Et on a beaucoup de choses à faire et on a beaucoup d'efforts à analyser lentement tous les phénomènes dont j'ai essayé de vous le dire très très vite. Mais merci beaucoup.